Question d'islam par Ral Bencher. Aujourd'hui, nous parlons de géostratégie, de rapports internationaux, de relations entre les nations, avec l'élément islamique comme argument, comme otage, comme aussi justification de ces rapports. Et pour aborder ce sujet, j'ai plaisir à recevoir le professeur Mustapha Benchenan. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être venu nous éclairer par vos propos, vous qui êtes politologue, psychologue aussi. Vous avez cette double formation en sciences politiques, vous avez un doctorat d'État et en psychologie aussi. Et vous êtes surtout un contributeur régulier de la revue de la Défense nationale. La toute première question, et en guise d'entrée en la matière, comment se fait-il que lorsqu'il s'agit des rapports entre les pays dits occidentaux ou même le reste du monde, on parle de nations séparées, quand il s'agit du monde musulman, on le prend in globo, alors que les disparités, les dissensions, les frictions au sein de ce monde sont si criantes et criardes, d'aucuns parleraient volontiers d'un essentialisme réducteur. Comment peut-on sortir déjà de cette grille de lecture d'emblée?
Il y a beaucoup d'ignorance de la part de certains occidentaux qui parlent du monde musulman comme étant un monolithe. Or, ce n'est pas le cas. Le monde musulman, quand je l'évoque par écrit, je mets toujours des guillemets. Et la réalité de cette zone qui va de l'Atlantique jusqu'à Kaboul et Peshawar, jusqu'à l'Indonésie, etc. La grande caractéristique de ce qu'on appelle le monde musulman, c'est la fragmentation. C'est extraordinairement fragmenté, divisé, et j'ai à l'esprit l'approche qui a prévalu à l'époque de Bush Junior. Monsieur Bush avait été inspiré, si je puis dire, par les penseurs du courant néo-conservateur, et il a parlé de « Greatest Middle East », le Grand Moyen-Orient. Et qu'est-ce que c'est que le Grand Moyen-Orient pour les néoconservateurs et pour M. Bush? C'est une zone qui va de Nouakchott jusqu'au Pakistan, jusqu'en Afghanistan. Et pour eux, c'est la même chose. C'est un bloc, c'est un monolithe. Et il ne faisait aucune distinction, il n'introduisait aucune nuance dans leur approche. Ce qui révèle une ignorance terrible, avec des conséquences très graves, parce que il postulait que le monde musulman était donc un monolithe, que ce monde musulman était plongé dans le statu quo et l'immobilisme, qu'il était producteur de terrorisme, et que pour venir à bout du terrorisme, il fallait le démocratiser. Et le démocratiser, s'il le fallait, par la force. Donc ça a donné les guerres en Irak à partir de mars 2003, et ça a donné la guerre aussi en Afghanistan, qui dans un premier temps était une guerre de légitime défense après les attaques contre les tours jumelles en septembre 2001, et qui s'est transformée ensuite en combat, en guerre pour imposer la démocratie en Afghanistan. Donc on voit les ravages provoqués par cette approche erronée. Et notre rôle, nous qui sommes dans la recherche, donc forcément dans l'analyse et non pas dans l'émission d'opinion, ça c'est très très important, beaucoup de gens ont des opinions sur tout et sur n'importe quoi, mais notre rôle à nous c'est d'être en mesure de proposer des analyses. Et je ne cesse de dire que l'approche occidentale mériterait d'être plus que nuancée.
Oui, alors vous avez dit que ce monolithe est une vision erronée des choses, certes, et que la distance culturelle entre un musulman de Rabat et un musulman de Peshawar est abyssale, et que cette région du monde serait ou est productrice de terrorisme. Il n'empêche aussi que c'est une réalité que la terreur sévit dans cette région du monde.
Alors oui, il y a du terrorisme dans ces régions et partout il y a des extrémistes qui se réclament de l'islam pour recourir à la violence la plus extrême. Mais est-ce que l'islam, comme le disent certains, induit la violence? Est-ce que l'islam induit le terrorisme? À cette question, moi, je réponds non. Parce que on peut considérer qu'il y a d'autres causes de nature sociologique, économique, psychologique, culturelle. Et l'islam n'incite pas les musulmans à aller se transformer en kamikaze. Je n'ai jamais trouvé dans le Coran ou dans les hadiths une incitation au recours à la violence aveugle contre des innocents et le procédé du kamikaze. Alors, vous savez, au XIXe siècle, et ça, Camus l'avait noté dans L'Homme révolté, dans les années 1890, il y a eu 1000 attentats terroristes en Europe. Et cette même année, il y en a eu 500 aux États-Unis. C'était des attentats terroristes faits par des anarchistes. Donc toute période génère ou produit de la violence, et cette violence a besoin d'un habillage, que ce soit un habillage idéologique ou un habillage religieux, mais les causes profondes, il faut les rechercher sans doute ailleurs.
Donc votre lecture, c'est plus une islamisation de la radicalité que la radicalisation de l'islam, pour revenir à un débat récent et qui perdure toujours.
Cette approche est celle d'Olivier Roy.
L'approche de Gilles Kepel, mais bon.
Mais je ne suis pas loin d'être d'accord avec cette approche, parce que moi je le dis et je l'écris, quand on tue des innocents, quand Mera tue un enfant à la sortie d'une école, là, on n'est plus ni dans la religion ni dans la politique. On est sur un autre registre irrationnel, de folie meurtrière. L'islam n'a jamais incité ou donné cette inspiration à des gens qui usent de la violence d'aller tuer une petite fille à la sortie de l'école.
Oui, alors nous avons eu l'occasion à ce micro et sur cette antenne de débattre de ces questions et d'y revenir. Est-ce qu'on peut ou on doit se prévaloir de données révélées pour commettre l'irréparable ou pas? Votre réponse est non, certes. Comme Monsieur Islam n'existe pas, donc on n'a pas aussi une seule doctrine, il y a plusieurs lectures. Nous aurons l'occasion, encore une fois, d'y revenir. Ici et aujourd'hui, c'est pour parler de comment l'élément islamique a été pris en otage ou, pour certains, idéologisé dans les rapports internationaux. Et comment, à titre d'exemple, vous qui avez évoqué le Moyen-Orient, maintenant au Proche-Orient, donc on restreint un peu plus, cet élément est présent, puisqu'on nous dit, les faiseurs d'opinion, les relayeurs d'opinion, qu'il y a un tel antagonisme entre les deux confessions, on oublie la troisième, entre les sunnites et les chiites, que de fait, la religion islamique se trouve au cœur encore d'un conflit sanglant au Proche-Orient.
Alors prenons au mot cette approche, qui consiste à dire que l'habillage religieux qu'adoptent ces gens qui ont recours à la violence correspond à une réalité. Cette réalité de l'antagonisme chiite-sunnite. Alors, chiite-sunnite, un antagonisme, à la rigueur, on pourrait soutenir cette approche et cette thèse s'agissant du Proche-Orient. Mais si on prend l'exemple de l'Algérie, la décennie 90, où il y a eu une utilisation de la violence la plus extrême, la plus indescriptible, la plus aveugle, en Algérie, il n'y a pas de chiites. Les Algériens sont musulmans et 100% sunnites. Et c'est pourtant dans l'ensemble de ce qu'on appelle...
Mais la frange djihadiste, mais ça, oui, elle n'a pas été impliquée dans la décennie noire.
Voilà. Ce que j'appelle, moi, ce conflit interne à l'Algérie, certains l'appellent guerre civile, d'autres l'appellent guerre contre le terrorisme, il y a eu un conflit interne. Et les Algériens sont sunnites. Alors, il n'y a pas d'antagonisme sunnite-chiite. Quant au Proche-Orient et Moyen-Orient, le chiisme est représenté principalement par l'Iran. Et moi, je me suis souvent interrogé en me disant, est-ce que ce ne serait pas plutôt l'habillage d'un antagonisme, d'une rivalité, d'une course au leadership entre la Perse et les Arabes? Et je ne suis pas loin de penser que c'est une approche qui mériterait d'être approfondie.
même si la majorité des habitants de l'Irak est de confession, tout en étant musulman, de confession chiite.
Alors, on a vu pendant la guerre Irak-Iran que les Irakiens de confession chiite ont fait preuve de loyalisme à l'égard du régime et du pays qui est le leur. Depuis, les choses ont bien évolué. Et tout le monde sait maintenant que la guerre américaine de 2003 a permis à la majorité chiite d'Irak de prendre le pouvoir. Et certains disent que M. Bush Jr. a offert sur un plateau l'Irak à l'Iran. Alors, c'est en partie vrai. Il y a aujourd'hui une influence iranienne sur le pouvoir de Bagdad qui est essentiellement chiite. Mais globalement, historiquement, parce que quand on fait de la recherche, vous savez, dans le domaine militaire, les militaires parlent de profondeur stratégique. Nous, dans le domaine qui est le nôtre de la recherche dans ces disciplines, il faut avoir recours à la profondeur historique. Et cette profondeur historique, donc si on remonte aux siècles qui viennent de s'écouler, c'est un antagonisme entre Perses et Arabes pour le leadership dans la région. Une politique de puissance qui a besoin d'un habillage, d'une légitimation par un discours religieux.
Et alors, d'aucuns, je le dis sous votre contrôle, parlent plutôt d'un axe Téhéran-Damas qui contrebalancerait un axe Riyad-Ankara.
Alors, l'axe Damas-Téhéran, il faut savoir que à Damas, le pouvoir est un pouvoir alaouite. Et qui sont les alaouites? Les alaouites de Syrie, c'est une branche qui s'est détachée du chiisme iranien au 9e siècle. C'est Mohammed ibn Nusayr qui a créé cette mouvance. Et depuis cette époque, au 9e siècle, les alaouites ont toujours été persécutés, à la fois par les chiites, qui les tenaient pour des renégats, et par les sunnites, qui les tenaient pour des hérétiques. Et ils ont été persécutés historiquement tout le temps, depuis le 9e siècle, y compris à l'époque de l'Empire ottoman. Et ils représentent aujourd'hui 8% de la population syrienne. Il se trouve qu'ils ont pris le pouvoir en 1970-1971 par un coup d'État de Hafez al-Assad.
Mais à ce moment-là, on ne se prévalait pas de la confession alaouite, c'était encore le parti Baas.
Alors,
ça l'est toujours.
C'est très intéressant, vous avez raison de le souligner. Et le parti Baas et l'idéologie baasiste étaient intéressantes. Pourquoi était-elle intéressante? Parce que cette idéologie baasiste entendait transcender les appartenances particulières aux religions, aux ethnies, aux régions, aux tribus, etc. Transcender les appartenances particulières au profit d'une appartenance plus vaste qui est la nation. Et pas seulement la nation syrienne, mais la nation arabe, avec une forme de laïcité permettant à tous les Syriens, à tous les Irakiens, et plus largement à tous les Arabes, de vivre en paix ensemble. C'est ça l'idéologie originelle du Baas. Et aujourd'hui, on ne comprend pas ce qui se passe en Syrie si on se contente de dire, à propos de Bachar al-Assad, j'ouvre les guillemets, un tyran sanguinaire qui massacre son propre peuple. C'est une vision un peu réductrice, car il faut identifier la nature du problème, la nature du conflit. Et la nature du conflit en Syrie, c'est une guerre civile. Et une guerre civile, qu'est-ce que c'est? C'est l'implosion d'un État et d'un peuple. Et c'est la guerre de chacun contre tous et inversement. Avec évidemment des circonstances favorables pour les ingérences étrangères qui viennent aggraver le conflit interne et qui s'entremêlent l'un et l'autre. Donc c'est intéressant, votre question est très intéressante dans la mesure où il faut préciser de quoi il s'agit et quelle est la nature des problèmes. Si on ne définit pas avec exactitude la nature du problème, on n'a aucune chance d'arriver à des vraies solutions.
Tout comme dans les maladies, s'il n'y a pas un bon diagnostic, on ne trouvera pas la médication
absolument
appropriée.
Le
parti Baas, puisque vous l'avez évoqué, se veut transconfessionnel, au-delà des considérations d'appartenance, soit d'abord à l'élément chrétien ou l'élément islamique dans le panarabisme, et a fortiori, ça doit transcender aussi les clivages confessionnels sunnites, chiites, alaouites, avec la minorité de 8% dans la configuration du peuple syrien. Alors, comment faire pour que l'élément religieux ne soit pas opérant sur les psychés des antagonistes.
Alors ça, c'est une question à la fois importante et grave. Parce que j'ai une approche qui est à contre-courant de ce que l'on énonce habituellement. Et je pense que l'un des gros problèmes auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui, c'est que les religions en général, et puisqu'on parle de l'islam, l'islam, dans ce qu'on appelle entre guillemets le monde musulman, a du mal aujourd'hui à jouer le rôle qui est le sien, à remplir une finalité, l'une des finalités qui est la sienne, à savoir, et c'est le rôle de toutes les religions, parce que religion signifie relier les êtres humains les uns aux autres, à travers une foi commune, un rituel partagé, un sens auquel on adhère. Et cette finalité, c'est de vivre en paix ensemble, en se réclamant de la même foi. Eh bien, aujourd'hui, on constate que l'islam a du mal à jouer ce rôle, c'est-à-dire permettre à ceux qui s'en réclament de vivre en paix ensemble. Et il y a d'autres facteurs qui peuvent expliquer ces implosions, parce que les guerres civiles dans ce qu'on appelle le monde musulman ont tendance à se multiplier. Il y a l'Irak qui n'en a pas fini encore avec le conflit interne, parce que l'Irak c'est l'invasion et la guerre étrangère plus une guerre civile. La Syrie, le Yémen, le chaos libyen. Donc un peu partout, il y a des implosions.
Le cas afghan. Le cas afghan. Pour ne pas rester dans le monde arabe.
Oui, le cas afghan aussi est intéressant parce que c'est une guerre qui a commencé après le 11 septembre et qui n'est toujours pas terminée. C'est une guerre qui dure, dont la durée excède de 4 fois la Seconde Guerre mondiale. Et ce n'est toujours pas terminé. Donc, moi, je vois 3 facteurs qui peuvent expliquer les difficultés que vous évoquez. D'abord, mais tout est lié. Hein. Quand je dis d'abord, c'est une formule.
C'est-à-dire que vous ne hiérarchisez pas, il n'y a pas de priorité, mais vous commencez par celle-là.
C'est imbriqué. Oui. C'est une approche systémique, si je puis dire. L'échec a des degrés différents, a des degrés variables de toutes les stratégies de développement économique et social. On a essayé le socialisme, on a essayé l'économie de marché, et c'est un échec partout, y compris pour les pays qui ont de l'argent grâce au pétrole et au gaz. Donc ça, c'est un premier facteur qui explique les problèmes actuels. Le deuxième facteur, c'est la greffe État-nation qui n'a pas réussi. On a postulé, lorsque les pays ont acquis leur indépendance, on a postulé que, d'une part, les pays, les États nouveaux naissent dans les frontières héritées de la colonisation. Première erreur. Deuxièmement, on a postulé qu'à l'intérieur de chaque frontière, il y avait des États-nations. Or, aujourd'hui, que les contradictions s'exacerbent, on se rend compte d'une chose, c'est que la nation, c'est un concept et une réalité éminemment européenne. Et on a voulu transposer ces réalités et ces concepts de l'Europe occidentale en particulier à un monde qui avait d'autres références, d'autres réalités.
Une configuration de type tribal ?
Tribal, ethnique, religieux, en tous les cas un système d'identification et d'appartenance qui n'était pas la nation et qu'on a voulu greffer. Et aujourd'hui, cette greffe apparaît pour ce qu'elle est. La fiction de l'État-nation est en train de prendre fin. Donc, l'échec des stratégies de développement, la fin de la fiction de l'État-nation et, comme je le disais tout à l'heure, la religion qui a du mal à remplir cette finalité qui doit être la sienne, qui est de permettre à ceux qui s'en réclament de vivre en paix ensemble. Donc la conjonction de ces 3 facteurs explique à mes yeux ce qui se passe depuis une 20aine d'années. Et si malheureusement j'ai raison, eh bien nous assisterons encore à des implosions dans ce que l'on appelle de façon rapide le monde musulman. Thank you.
Nous sommes sur France Culture dans l'émission Questions d'Islam. Aujourd'hui, nous parlons de géostratégie, de rapports internationaux, de politique internationale avec Mustapha Benchanan, politologue, psychologue, contributeur régulier de la revue La Défense Nationale. Et Mustapha Benchanan, si je reprends votre triptyque, l'échec des stratégies économiques et de développement, le greffon État-nation qui n'a pas pris, et la religion comme projet de pacification et de cohésion pour vivre dans la paix n'ayant pas réussi, la question qui fuse tout de suite, comment se fait-il que cette tradition religieuse, c'est ce qui nous intéresse dans cette émission, qui, à travers l'histoire, avait ou aurait sous-tendu une civilisation brillante et qui a permis cette vie, par-delà les appartenances confessionnelles, ethniques, par-delà la diversité culturelle, peine aujourd'hui à réussir ce projet pour lequel elle a été suscitée au monde.
Alors, beaucoup de gens en Occident soutiennent que si les pays musulmans ne parviennent pas à se développer, à se moderniser, etc., c'est la faute de l'islam. Donc, dans l'esprit de ces personnes qui avancent cette analyse ou cette opinion, c'est pas la même chose, opinion et analyse, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a qu'à cesser d'être musulman et ainsi on accédera au développement et à la modernité. Ce à quoi moi je réponds, je réplique, que l'islam a été à l'origine d'une civilisation qui est l'une des plus brillantes de l'histoire de l'humanité et il n'a jamais été un obstacle, au contraire, il a créé une dynamique permettant l'éclosion et le développement d'une civilisation. Et
Non, pardon, c'était simplement pour vous dire que les systèmes apologétiques montrent très vite leurs limites, mais d'aucuns ont parlé de la civilisation. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on pouvait même pas les hiérarchiser, puisqu'il n'y en avait qu'une seule. Et donc, cette civilisation à référence islamique, à un moment donné de l'histoire, globalement, du milieu du 8e siècle, peut-être à la fin du 8e siècle jusqu'au 12e, 13e, était la référence. Quand on parlait de civilisation islamique, c'était la civilisation humaine. Et petit à petit, des raisons de régression, de décadence ont émergé pour que nous arrivions à la situation dont nous parlons maintenant.
Vous vous souvenez de la phrase de Paul Valéry, « Les civilisations sont mortelles ». Si on se penche sur l'histoire de l'humanité, cette phrase de Paul Valéry est tout à fait vraie. Elle se vérifie dans les faits. Ce qui est intéressant de constater, c'est que quand l'islam apparaît au 7e siècle en Arabie, de quoi s'agit-il ? Il s'agit d'une religion nouvelle qui ne renie pas celles qui l'ont précédée, le judaïsme et le christianisme.
D'aucuns disent qu'elle n'était même pas nouvelle puisqu'elle était continuatrice.
Voilà. C'est une chose qui est très importante dans le Coran. À maintes reprises dans le Coran, il est dit, puisque le Coran pour les musulmans c'est la parole de Dieu, que Mohammed a été désigné par Dieu pour confirmer les messages qui ont été révélés avant lui. Et ça c'est très très intéressant, il n'y a pas de rupture, il y a une continuité. Mais ce qui me paraît intéressant, c'est que, qu'est-ce qui s'est passé au 7e siècle ? C'est que l'islam renouvelle le système de croyance de ce peuple et de ce pays, qui était globalement polythéiste. Et c'est en renouvelant les croyances et le système de croyances des populations de cette région, puis des régions avoisinantes, qu'on a créé une dynamique. Et cette dynamique a été un facteur très très important d'apparition, de développement d'une civilisation dite musulmane. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, on n'est pas devant un défi formidable, extraordinaire, qui serait celui de rénover, je ne dis pas réformer, mais de rénover, donner un nouveau souffle, une nouvelle respiration à cette religion musulmane. Est-ce que la façon dont on conçoit l'islam aujourd'hui n'est pas en train de s'essouffler ? C'est pas l'islam en lui-même que je remets en question, mais la façon dont il est perçu, dont il est pratiqué. C'est-à-dire, de plus en plus, je constate que les gens sont attachés à un rituel, en ayant perdu le sens de ce rituel. J'irai même plus loin, en tant que psy.
Le fameux ritualisme desséchant, et on retrouve toujours le suffixe « isme » qui étouffe la racine. Donc ce n'est plus un rituel qui ait du sens, mais une manière quasi mécanique à accomplir ces rites.
Alors, selon une terminologie psy, je dirais un rituel qui est devenu une compulsion. Et ça, c'est une dégénérescence très, très, très grave. Alors, on nous parle en Occident, il faut réformer l'islam, il faut réformer l'islam. Mais qu'est-ce que ça signifie, réformer l'islam ? C'est une injonction. S'il y a un travail à faire, il doit venir de l'intérieur et non pas à partir d'une injonction extérieure.
De l'intérieur, ça sous-entend que ce sont ses propres théologiens, penseurs, philosophes, intellectuels, y compris les hiérarques, les dignitaires, qui doivent prendre à bras le corps tous ces chantiers de rénovation, de renouvellement. D'aucuns parlent de refondation, d'autres de réforme ou de réformisme. Sur quel sujet, sur quel plan ? Celui de la modernisation des esprits, des institutions ? On verra tout à l'heure ensemble, si vous voulez bien, la question de la laïcité, du pluralisme, de la liberté de conscience, de l'égalité entre les êtres, de la désacralisation de la violence, tous ces chantiers.
Mais tous ces chantiers devraient être menés sur une initiative endogène. Et je pense qu'il y a un travail qui est fait par des gens qui sont brillants, qui ont une méthodologie, mais les travaux ne sont pas connus. Alors, on nous dit il faut moderniser l'islam, mais qu'est-ce que ça signifie, moderniser l'islam ? La modernité, qu'est-ce que c'est ? Alors,
nous avons entendu aussi qu'il faut islamiser la modernité.
Oui, absolument. Alors, mais quand on dit modernité, 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 qu'est-ce qu'on veut dire par là ? Donc, il faut toujours aller à l'étymologie des termes. Quand ce concept est créé, si je puis dire, modernité vient du latin modernus, qui signifie juste maintenant et récemment.
Et suivre son mode.
Voilà. Et à l'époque où ce concept est né, on opposait modernité et tradition. Alors, moi, je veux être plus concret. Si la modernité, c'est une dynamique, c'est un mouvement allant vers le progrès. Si la modernité, c'est un rapport à la science et à la technologie. Exemple. Moi, je ne vois pas d'obstacle entre, ou d'antagonisme entre l'islam et la relation à la science et à la technologie. L'acquisition du savoir en islam est sacrée.
Sauf qu'on ne voit pas, j'allais dire, le résultat, mais je ne veux pas être dans le pessimisme, c'est simplement pour vous poser des questions. Mais la modernité passe aussi par des considérations du droit. C'est-à-dire de citoyenneté, le citoyen est le fondement du droit, que par la liberté, notamment la liberté de conscience, ne pas criminaliser l'apostasie. Ce sont des concepts qui fondent la vie dans une société ouverte, démocratique, libre. Et c'est ainsi que petit à petit, l'adhésion à une foi devient une adhésion dans l'intimité de conscience et dans la liberté.
Alors vous avez tout à fait raison. Maintenant, si on se réfère au Coran par rapport aux valeurs et aux indicateurs que vous venez de signaler, pas de contrainte en religion. Dans le Coran, il est dit qu'on n'a pas à utiliser la contrainte, la violence, pour forcer quelqu'un à se convertir ou à pratiquer sa religion. Il est dit « crois qui veut, aimer crois qui veut ».
Vous avez cité deux versets coraniques, le 256 de la sourate 2, « Nulle contrainte en la religion, la voie droite se distingue clairement de l'erreur ». Et l'autre, c'est celui de la sourate 18, la sourate de la caverne, le verset 29. « La vérité émane de ton Seigneur, crois qui il veut, ne crois pas qui il veut ». Et nous en connaissons d'autres, et ils sont aussi nombreux dans le Coran, il y a une pléthore. Le seul ennui, c'est qu'en dépit de la présence de ces versets coraniques, eh bien, nous avons les fondamentalistes qui ne les lisent pas. Alors, comment expliquez-vous la myopie, pour ne pas dire la cécité, de ces radicaux, de ces fondamentalistes, qui, eux, lisent ou trouvent des versets dits belligènes, martiaux, guerriers, violents, et ils les extraient même hors contexte, et ils passent sous silence ces versets. Qu'est-ce que c'est que ce choix sélectif, en se prévalant de ce qui permet pour eux de commettre l'irréparable et de taire ou de ne pas voir du tout ce qui promeut la liberté et la fraternité universelle?
Vous savez, tout projet politique qui a recours à la violence a besoin d'habiller idéologiquement le recours à la violence, d'habiller idéologiquement ou par la religion devenant une idéologie, les fins qui sont les siennes, qui sont soit la prise du pouvoir politique, soit une politique de puissance. Les gens ne vont pas dire nous voulons le pouvoir parce que nous sommes nous avons la passion du pouvoir, nous sommes ambitieux, nous voulons exercer, nous voulons jouir du pouvoir. C'est ce narcissisme pathologique parfois que l'on trouve chez ceux qui nous gouvernent. Donc toute politique menée par rapport au pouvoir, la prise de pouvoir puis sa conservation, a besoin d'un habillage. Et cet habillage peut être religieux. Donc on a affaire à des gens qui prennent dans le Coran ce qui leur convient et qui laissent de côté tous les versets qui sont positifs, qui sont fraternels, qui sont bienveillants à l'égard des religions, des gens du livre, c'est-à-dire les juifs et les chrétiens. Je rappelle par exemple que dans le Coran, il est dit que les musulmans, les juifs et les chrétiens et les sabéens appartiennent à la communauté des croyants. La fameuse Umma en arabe. Mais ces versets-là sont complètement ignorés et par les islamistes, entre guillemets, ceux qui instrumentalisent la religion dans un but politique. Et ce but politique, ce projet politique, ce n'est pas n'importe quel projet politique, c'est un projet politique totalitaire. Donc les versets négatifs, et ils existent, il faut mettre tout sur la table. Il faut être, quand on est un chercheur, il ne faut pas être partisan. Donc ces versets hostiles, agressif à l'égard des juifs et des chrétiens, existe bel et bien dans le Coran. En même temps, il existe, à l'égard de ces mêmes juifs et de ces mêmes chrétiens, des versets fraternels. Donc, si vous voulez bien, on en parlera pour expliquer le pourquoi des choses. Donc, il y a les islamistes, entre guillemets, qui instrumentalisent le Coran et qui prennent ce qui leur convient pour habiller leur comportement et le recours à la violence. Et vous avez également les islamophobes qui prennent exactement les mêmes versets pour nous dire, l'islam est par essence violence. L'islam porte dans son ADN la violence, l'antijudaïsme, etc., etc. Donc, il faut expliquer pourquoi dans le Coran, on trouve une chose et son contraire.
Alors, pourquoi ? J'ai ma petite idée, mais c'est plutôt vous qui nous instruisez aujourd'hui.
Il faut rappeler que les chapitres, les sourates dans le Coran sont classés par ordre de grandeur décroissante et non pas de façon chronologique. Alors, quand quelqu'un me dit « Ah oui, moi j'ai lu le Coran », c'est pour, en général, je me dis « La suite, je la connais. » « Ah mais j'ai lu le Coran et voilà ce que le Coran dit. » Et ils vont chercher des versets négatifs à l'égard des juifs et des chrétiens et le recours à la violence, etc. Alors, il faut lire le Coran de façon un peu plus intelligente, c'est-à-dire en ayant à l'esprit le contexte de l'époque, les acteurs, les enjeux, les rapports de force. Et si on fait abstraction de ces éléments qui, à mes yeux, sont déterminants, ces éléments qui éclairent la lecture intelligente du Coran, d'une part, on peut être de bonne foi et se perdre, et ne pas comprendre. On peut être de mauvaise foi et prendre ce qui nous arrange.
Alors, ceux qui sont de bonne foi, pour leur faire ce crédit-là, comment leur expliquer que ces passages dits agressifs ou violents, et notamment à l'encontre, dans certains cas précis, des juifs et des sectes, le mot secte n'est pas à prendre avec la charge émotionnelle de nos jours chrétiennes qui se trouvaient dans la péninsule arabique, c'était le contexte politique du moment, donc ça, ces versets sont conjoncturels et circonstanciels, alors que les versets de portée universelle, du genre « tu trouveras ceux qui sont proches des croyants par l'amitié sont ceux qui disent nous sommes chrétiens », le fameux verset 82 de la sourate 5, « car leurs yeux s'inondent de larmes quant à la récitation de la parole de Dieu, tu trouveras parmi eux des moines et des prêtres dont les yeux s'inondent de larmes quant à la récitation de la parole de Dieu. » Ou le verset que vous avez cité, le verset 60 de la sourate 2, qui dit « ceux qui ont cru, ceux qui se judaïsent, ceux qui disent nous sommes chrétiens et les sabéens n'éprouveront nulle crainte ni tristesse. » Donc on est dans une optique de félicité et qui ne seront point affligés et cette portée est universelle. Les autres sont conjoncturels. Il faut des imams qui expliquent ça, des muftis, des docteurs de la loi, des théologiens, ou simplement dire qu'il faut bâtir un projet moderne, de société, qui laisse la révélation comme un système pourvoyeur d'éthique, de solidarité, de bonté, de miséricorde, mais la gestion des affaires dans la cité doit être une affaire proprement humaine.
Mais on peut faire les deux à la fois. Une lecture intelligente du Coran peut mener à cette deuxième phase que vous évoquez. Expliquez. Alors, en général, on dit il y a deux périodes. La période de la Mecque et la période de Médine. Pour moi, il y a trois périodes. La période de la Mecque, avec les premières révélations, et c'est une période au cours de laquelle on trouve des versets plutôt bienveillants, positifs à l'égard des gens du livre. Et puis, comme vous le savez, il y a des persécutions dont sont victimes Mohammed et ses disciples. Ces persécutions, ce ne sont pas le fait des Juifs et des chrétiens, ils sont le fait d'Arabes qui sont polythéistes. Et c'est ainsi qu'il y a eu la Hijra, c'est-à-dire le départ de la Mecque, la traversée du désert et l'arrivée à Yathrib. Là commence la deuxième séquence.
Qui sera baptisé Médine.
Médine plus tard. Là commence une deuxième étape, parce qu'on dit d'un côté la Mecque, de l'autre côté Médine. Mais non, à Médine, pendant quelques années, il se passe des choses très très positives entre les musulmans et Mohammed d'un côté, de l'autre côté les tribus juives et les tribus chrétiennes. Et là encore, il y a des révélations très positives à l'égard des juifs et des chrétiens. Et c'est au moment où le conflit s'exacerbe entre les musulmans et les arabes polythéistes que là, il y a une accusation contre certaines tribus juives et chrétiennes, d'avoir rompu le pacte qu'elles avaient passé avec Mohammed, dans un climat et dans un contexte de guerre féroce, un contexte où les musulmans se battaient pour leur survie. Et c'est là qu'on trouve des versets du Coran, combattez, etc. Et comme par hasard, entre guillemets, des versets qui deviennent de moins en moins fraternels pour devenir franchement agressifs à l'égard des juifs et des chrétiens. Donc si on n'a pas cette approche par la chronologie, par le contexte, par les enjeux, les acteurs, les rapports de force, on ne comprend pas le Coran.
Mustapha Ben Chenane, nous entendons cela, nous entendons, le verbe entendre est au sens espagnol du terme, c'est-à-dire à la fois l'entendre, l'écouter et le comprendre. Simplement, j'ai utilisé le terme tout à l'heure, comment faire pour que ceci ne soit pas opérant, n'ait pas un impact sur la psyché de ceux qui sont fragiles. On a parlé des idéologues qui instrumentent ou instrumentalisent cela et qu'ils manipulent, qu'ils domestiquent. D'accord. Mais il y a aussi les autres qui, de bonne foi, viennent leur dire ben, « ta mission sur Terre est d'oxyre autrui ». Donc il y a l'éducation à l'altérité, l'éducation à l'explication, qu'on n'est pas seul dépositaire de la vérité absolue et on n'est pas seul détenteur d'une vision ultime de la relation à Dieu, etc. Donc ça relève du projet d'une modernité bien comprise. Je ne parle pas de ce modernisme d'une raison instrumentale exclusivement technologique.
Moi, je pense qu'il y a deux approches qu'il faudrait adopter simultanément. L'approche que je préconise, qui consiste à introduire de la chronologie dans la lecture du Coran, ça, on gagnerait en intelligence si on adoptait cette méthodologie. Et ça ne peut être fait que par les gens qui sont des imams, des mouftis, et par l'enseignement coranique dans les écoles. Et puis, il y a simultanément une autre approche qui consisterait par des programmes scolaires, par l'éducation, et ça c'est vital, ça devrait être la priorité des priorités, élever le niveau d'intelligence, aiguiser l'esprit critique des enfants, des futurs adultes, pour que la conjonction de ces deux approches nous permette d'aboutir à ce que vous souhaitez ou la question que vous me posez, à savoir la citoyenneté, la rationalité, la modernité, ce qui n'est pas une façon de combattre la religion, mais de rendre la pratique et la perception et les convictions religieuses plus intelligentes, plus fraternelles, plus bienveillantes et permettant de vivre en paix ensemble, non seulement pour ceux qui se réclament de cette religion, mais aussi avec les autres. Je me souviens à l'école militaire, il y a quelques années, j'ai conclu mon séminaire en disant, et ça, je sais que c'est très mal perçu, je disais, aucune religion n'est supérieure à une autre, aucune religion n'est meilleure qu'une autre. Et je me souviens d'un officier supérieur qui m'a dit, très choqué, « Monsieur, si vous n'êtes pas convaincu que votre religion est la meilleure, vous devez vous changer de religion. » Vous voyez à quoi on en est réduit. Donc cette ouverture qui est souhaitable est perçue par les autres comme étant insupportable.
Nous sommes sur France Culture dans l'émission Questions d'Islam. Aujourd'hui, nous parlons dans cet entretien avec le politologue et le psychologue, mais vous auriez pu être aussi islamologue, Mustapha Benchennane. Qu'est-ce que c'est qu'un islamologue ? C'est celui qui tient un discours rationnel sur le fait islamique. Vous êtes un collaborateur, un contributeur régulier de la revue La Défense Nationale. Et aujourd'hui, nous parlons ensemble de l'élément islamique dans les rapports internationaux, même si nous avons passé un moment sur une sorte d'exégèse nécessaire et moderne du Coran. Pour cette dernière partie, comment lisez-vous, comment voyez-vous, quelle est votre appréciation sur à la fois ce Proche-Orient, cet Orient compliqué pour lequel il faut y aller avec des idées simples pour emprunter la parole gaulienne. Cette fameuse laïcité turque, d'aucuns nous disent que c'est le retour du balancier. Il est parti loin avec Mustafa Kemal à tête turque dans les années 30-40. Maintenant, avec Erdogan, ça revient plutôt de l'autre côté. Le balancement du pendule fera en sorte qu'à un moment donné, on viendra à une situation d'équilibre. Et cette situation d'équilibre permettra une vie apaisée, raisonnée, intelligente, harmonieuse entre les données politiques et les données religieuses.
Alors j'ai traité de cette question de la Turquie dans un article dans la revue Défense Nationale en novembre dernier. Et j'avais intitulé mon article « Turquie, Erdogan ou la revanche sur Atatürk ». Pourquoi la revanche sur Atatürk ? C'est que Atatürk a mené très 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 loin la laïcité, la laïcisation de la société turque. Et on se rend compte des décennies après sa mort qu'on ne change pas la culture d'un peuple par la violence. Il y a une chose que je signale depuis longtemps, c'est que Atatürk n'était pas animé uniquement par une volonté de moderniser son pays. Il y a une dimension que l'on n'évoque jamais, c'est qu'il était dans une approche de revanche, de vengeance contre les Arabes. Pourquoi contre les Arabes ? Parce que, là encore, la profondeur historique, les Arabes se sont révoltés contre l'Empire ottoman lors de la Première Guerre mondiale et ils ont été incités à cette révolte par les Anglais et les Français, surtout par les Anglais. C'est le fameux épisode de Laurence d'Arabie que tout le monde connaît, notamment à travers le film. Et les Arabes ont pris les armes.
Et les sept piliers de la sagesse.
Voilà. Donc les Arabes ont pris les armes aux côtés des Britanniques et des Français contre l'Empire ottoman qui était l'allié de l'Allemagne pendant la Première Guerre mondiale. Donc les Turcs, et Atatürk en particulier, ont considéré que les Arabes avaient donné un coup de poignard dans le dos à ce califat, à cet empire ottoman. Et l'une des raisons pour laquelle Atatürk a voulu éradiquer tout ce qui lui rappelait de près ou de loin l'islam, notamment la laïcité, notamment le changement de l'alphabet.
La graphie arabe a été balayée.
Donc tout ce qui pouvait rappeler de loin ou de près ou de loin l'islam, l'islam étant révélé d'abord à Mohammed qui est arabe, en langue arabe, etc. Donc c'est une dimension importante à avoir à l'esprit pour comprendre la politique de Atatürk. Mais pourquoi je dis dans mon article la revanche sur Atatürk, c'est que il n'a pas réussi à changer les croyances du peuple turc profond. La Turquie profonde, ce n'est pas Istanbul seulement, avec
ni
sa modernité,
Ankara.
Ni Ankara. La Turquie profonde, c'est l'Anatolie. Et les Turcs, le peuple turc est resté profondément musulman. Donc, la laïcité poussée trop loin, ça donne Atatürk. Et comme vous le disiez, le balancier revient dans l'autre sens.
Et alors, ces mots montanés, c'est selon les analystes, d'autres disent ah non, mais avec l'AKP, avec Erdogan, c'est la réalité de la tradition religieuse islamique qui ne veut pas séparer les questions religieuses d'avec les questions politiques. Et pourtant, la première constitution de la Tunisie, on est en seconde moitié du 19e siècle, avec Khair ed-Din, à ce moment-là, la Tunisie était un état vassal de l'Empire ottoman et on a été gagné par des idées de constitutionnalisme, de modernité, d'une loi fondamentale à côté, remplaçant même ce que d'aucuns appellent la loi sacrée ou la loi religieuse, cette fameuse charia qui est venue dans son acception drastique plus tard.
Mais à mes yeux, il n'y a pas d'incompatibilité entre être musulman et mettre en place un système de laïcité. Les Turcs l'ont fait, on l'a dit dans le contexte que nous venons de rappeler. Le Baas l'a fait d'une autre manière en Syrie et en Irak. Et il n'y a pas de fatalité théocratique sous prétexte qu'on se réclame de la foi musulmane. Encore faut-il se mettre d'accord sur ce qu'on appelle la laïcité. C'est quoi la laïcité? Alors, si on prend des références comme la France, qui est une référence très importante quand on parle de laïcité, il y a eu la loi de décembre 1905, qui a été très largement inspirée par deux penseurs, Ernest Renan et Ferdinand Buisson. Et quelle était leur conception et leur définition de la laïcité? C'était la neutralité de l'État par rapport à la religion et la séparation du politique et du religieux. L'État neutre entre les religions est tolérant pour tous les cultes, disait Ernest Renan. Et Ferdinand Buisson dit exactement la même chose. Ça a donné la loi de 1905. Aujourd'hui, on en est à une laïcité qui est beaucoup plus intransigeante, beaucoup plus rigide. Et c'est cela qui pose des problèmes aujourd'hui, notamment en France, par rapport à certains musulmans, pas à tous les musulmans.
Et donc, quand vous avez évoqué la neutralité, le neutre n'a pas à être incompatible, ni compatible d'ailleurs, puisqu'il est dans sa neutralité à égale distance vis-à-vis des traditions religieuses dont il est censé réguler la cohabitation.
Alors, je suis tout à fait d'accord avec vous. Et moi, je rappelle aussi dans le Coran, il n'y a pas de prescription sur l'organisation politique, je dis bien politique, de la communauté musulmane. J'ai fait des recherches sur ce sujet et je n'ai pas trouvé le mot politique dans le Coran. Donc le Coran ne s'occupe pas, contrairement à ce que disent les islamistes, le Coran est notre constitution. C'est une imposture de dire une chose pareille. Le Coran, à aucun moment, ne s'occupe de l'organisation politique de la cité et de la communauté. Les choses se sont faites de façon empirique à l'époque de Mohammed, ensuite à l'époque des califes. Donc quand on me dit, par exemple, l'islam est incompatible avec la démocratie, je dis, mais il n'est ni compatible ni incompatible, il ne traite pas de la question. Les choses sont faites.
La question est a-religieuse,
voilà,
ou an-islamique,
tout à fait.
Du point de vue, j'allais dire, de la révélation coranique. Certes, ça c'est pour ceux qui veulent se prévaloir de la révélation, alors que l'organisation de la cité, c'est une délégation faite aux hommes et avec le positivisme juridique. C'est-à-dire, les lois, la fabrique de la loi doit être une émanation rationnelle des hommes qui s'applique aux hommes pour le bien-être des hommes.
Ben, nous sommes tout à fait d'accord et c'est l'approche la plus intelligente de la laïcité. Mais je parlais tout à l'heure de la loi de 1905. Vous savez bien qu'aujourd'hui, la laïcité est abordée de façon passionnelle et chez certains, elle est instrumentalisée parce que ils ne supportent pas ce qu'on en appelle les aspects visibles ou la visibilité de l'islam.
Ostensible,
c'est-à-dire le hijab, les accoutrements que portent certains hommes, etc.
Et qui ne sont que des épiphénomènes en réalité. Quand on sera plus intelligent, on comprendra qu'à Rome, il faudra vivre comme à Rome, et à Paris, on vivra comme à Paris, et que certaines tenues sont plutôt des tenues afghanes ou nord-africaines, et qu'elles n'ont rien d'islamique, comme certains veulent les présenter.
Alors, moi, j'utilise la formule suivante, qui est bien française. Je trouve que ces gens-là, ils ne savent pas où ils habitent, entre guillemets. C'est-à-dire ils sont perdus, ils croient avoir une identité, en réalité ils sont fragiles, ils sont manipulables, à la limite, c'est à la limite du grotesque.
Et ça, c'est le psychologue qui le dit. Je m'adresse maintenant au politologue. Comment, pour renouer avec le début de notre entretien, dans cette région du monde qui a connu la monstruosité idéologique et religieuse dénommée Daesh, qui serait vaincu militairement, mais qu'on retrouve au Yémen maintenant, et on ferme les yeux, le « on », c'est plus la coalition, et notamment celle qui la dirige, donc l'Arabie saoudite. Comment faire pour que, à côté de la défaite militaire, il y aura aussi la défaite dans les idées?
Il n'y a pas d'autre secret, à mes yeux, que l'éducation. Et il faut, si je puis dire, injecter dans les cerveaux, à commencer par les enfants, une approche rationnelle. Edgar Morin disait il y a trois rationalités, la rationalité théorique, la rationalité critique et la rationalité autocritique. Eh bien, comment parvenir à maîtriser ces trois rationalités? Il n'y a pas d'autre secret que l'éducation. L'éducation et le développement. Veiller à former les maîtres compétents, veiller sur le contenu des programmes scolaires et parvenir à un vrai développement. Parce que aujourd'hui, qu'est-ce que nous constatons? Nous constatons que, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'échec de tous les projets de développement. Et ce qui est assez tragique, c'est que ont échoué ceux qui ont de l'argent grâce au pétrole et au gaz, et ont échoué ceux qui n'ont pas d'argent parce qu'ils n'ont pas de matières premières stratégiques à exporter. Et cette question n'est jamais débattue dans les pays dits musulmans. Pourquoi certains pays, chacun pour sa part, je parle de ceux qui produisent du pétrole et du gaz, ont disposé chacun pour sa part de l'équivalent de 10 fois le plan Marshall, l'aide des États-Unis à la reconstruction de l'Europe en 1947. Chacun de ces pays détenant du pétrole et du gaz a disposé pour son propre compte de 10 fois l'équivalent du plan Marshall sans parvenir pour autant à se développer. Et quand on nous dit « mais non, mais les pays du Golfe sont développés », je réplique « vous confondez richesse et développement, ce n'est pas la même chose ». Donc le fond du problème, c'est la rationalité sous toutes ses formes qui permet d'induire l'organisation, la rigueur, le professionnalisme, les démarches qualité, d'être dans des compétitions à un moment où l'économie de marché est mondialisée. Et donc, se moderniser. Et se moderniser, c'est être dans cette dynamique qui permet justement l'audace du progrès, l'audace de la recherche scientifique, l'audace du changement politique, etc., pour aller vers un monde quelque peu meilleur.
Merci infiniment, merci Mustapha Benchenal. Les maîtres mots sont à la fois éducation et audace. C'était question d'islam. Chers amis auditeurs, vous retrouverez toutes les références des livres et des musiques sur le site franceculture.fr. L'attaché de production est Sylvia Favre. La prise de son a été assurée aujourd'hui par Delphine Baudet. La réalisation est toujours assumée par l'ami Franck Lilin.